Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Les nationalistes corses se comptent cet après-midi dans les rues d'Ajaccio, à 3 jours d'un déplacement sur l'île du président de la République. Les enjeux de cette mobilisation avec sur place Ludovic Piétenu. Également au sommaire de cette édition, les conséquences lourdes des négociations salariales dans l'industrie allemande et les inquiétudes des autorités philippines quant à des décès attribués au vaccin anti-dingue du laboratoire français Sanofi. Sans oublier la bulle éco, Marie Viennot nous entretient aujourd'hui de l'effet Amazon. Le 22 janvier dernier, sur le perron de Matignon, Jean-Guy Talamoni et Gilles Séméoni se disaient déçus de leur entrevue avec le Premier ministre, à la grande surprise de ce dernier d'ailleurs, et les deux leaders nationalistes, d'appeler aussitôt le peuple corse à prouver sa force et sa détermination. Sur la table, les enjeux suivants, le rapprochement des prisonniers de l'île, des détenus qu'ils qualifient de prisonniers politiques, l'inscription de la Corse dans la Constitution de manière à déroger du droit commun dans les domaines de la fiscalité, du foncier et de la langue. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ludovic, à court terme, les capacités des représentants nationalistes à peser dans les négociations vont dépendre tout simplement de l'ampleur de cette mobilisation.
Oui, il y a des moments dans la vie d'un mouvement où il est important de se compter. Pour les nationalistes, ce 3 février doit être une réussite. Il ne leur faut pas seulement beaucoup de monde dans les rues d'Ajaccio, il leur faut tout simplement atteindre, voire dépasser le chiffre record de manifestants dans toute l'histoire de l'île pour la seule cité impériale d'Ajaccio, autour de 10 000, chiffre atteint il y a 20 ans, au moment de l'assassinat du préfet Erignac. Plus proche de nous, en 2015, 5 000 personnes environ avaient manifesté ici en faveur de l'amnistie. Si l'on se projette à l'échelle du pays, du continent, 250 000 habitants sur l'île de Beauté, que représenteraient 10 000 personnes dans le défilé d'Ajaccio tout à l'heure, ce serait une foule immense de plus de 2,5 millions de personnes dans les rues de Paris. 10 000 ici seraient donc absolument considérables. Les chemins de fer Corse se sont organisés en conséquence pour rallier Ajaccio en proposant même des tarifs réduits de 50%, donnant lieu à une polémique cette semaine et des interrogations sur leur supposée neutralité. Pas si anecdotique, cela donne à comprendre que la toile, la famille nationaliste, est au sommet de sa puissance depuis le mois de décembre. Elle a 3 députés sur 4, la présidence de l'Assemblée, la présidence de l'exécutif local. Cette manifestation est donc dans l'esprit de cette famille la seule façon d'installer un véritable rapport de force avec Paris, en leur faveur bien sûr, de démontrer que les nationalistes bénéficient du soutien populaire avant que n'arrive Emmanuel Macron mardi matin, ici même, à Ajaccio.
Merci à vous, Ludovic Piétenu, avec à vos côtés à la technique Fabien Gosset. Manifestation programmée à Ajaccio à 14h30, avec pour principal mot d'ordre démocratie et respect pour le peuple corse. Avant-hier, Édouard Philippe défendait le plan de départ dit volontaire dans la fonction publique, 120 000 départs ambitionnés par le gouvernement. Et bien ce matin, le président de l'Association des régions de France, le centriste Hervé Morin, à la tête lui-même de la région Normandie, pose les questions suivantes. C'est où les départs? Et il répond, ce n'est pas dans les hôpitaux, ce n'est pas dans la police, ni dans la gendarmerie, ce n'est pas la justice, pas dans l'éducation, et que le gouvernement démontre le contraire, conclut Hervé Morin. Dernière étape aujourd'hui de la visite d'Emmanuel Macron au Sénégal. Le président de la République se rend à Saint-Louis du Sénégal, la première ville fondée par les Européens en Afrique, la Venise africaine, qui est aujourd'hui menacée par les eaux. Emmanuel Macron s'était engagé à venir voir, sur place, les dégâts constatés par le changement climatique. Claude Guibal suit cette visite présidentielle.
C'était en décembre, lors du One Planet Summit, le grand sommet climat organisé par Emmanuel Macron à Paris. Un homme interpelle le président de la République, son nom Mansour Faye. C'est le maire de Saint-Louis du Sénégal. Les ravages de la montée des eaux, sa ville les subit au quotidien, les vagues ont pris d'assaut la côte. La mer a mangé les terres à l'embouchure du fleuve Sénégal et de l'Atlantique. Elle a fait disparaître des localités, inonde les maisons des pêcheurs et ceux qui ne vivent pas sur la côte sont tout autant touchés comme Ousmane Gaye.
Je suis victime. Il y a le sel qui monte, donc du coup chez moi j'arrive plus à avoir de l'eau douce. Il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de pêche pratiquement, il n'y a plus d'élevage. Les gens sont vraiment fatigués.
Des milliers de personnes doivent être relogées. Il faut en urgence lancer de grands chantiers de stabilisation de la côte pour ne pas que l'ancienne capitale, 3 fois centenaire, ne disparaisse. Avec cette visite, Emmanuel Macron entend donc mettre du concret sur les priorités qu'il martèle depuis le début de son mandat. La préservation des biens communs de l'humanité, dont fait partie la défense de l'environnement, au même titre que la sécurité, la cohésion sociale et l'éducation. l'éducation. Autre thème de cette tournée africaine qui s'achève aujourd'hui.
Claude Guibal avec les moyens de Laurent Macchietti. En Allemagne, le syndicat IG Metall maintient la pression sur le patronat pour obtenir des hausses de salaire et des aménagements du temps de travail. Pour la troisième journée consécutive, hier, des grèves de 24 heures ont paralysé de nombreuses entreprises et les ouvriers du secteur automobile se sont massivement joints au mouvement. C'est une correspondance de Berlin de Cyril Sauvageau.
Des chaînes de montage désertes, la production à l'arrêt, les images sont spectaculaires. Elles témoignent de la très forte mobilisation dans la filière automobile, une cible stratégique pour IG Metall dans son bras de fer avec le patronat. À Dingolfing, en Bavière, la principale usine du groupe BMW est restée porte close toute la journée d'hier. 13 700 grévistes sur 17 000 salariés. Aucune voiture n'a pu sortir des ateliers alors qu'il s'en produit là-bas 1600 chaque jour. Audi, Daimler, Ford, Porsche, les autres constructeurs étaient tous également touchés. Une démonstration de force de la part d'IG Metall qui ne lâche rien sur ses deux revendications. 6% d'augmentation de salaire et la possibilité pendant 2 ans de réduire sa semaine de travail à 28 heures au lieu de 35. Un nouveau round de négociations, le 6e, pourrait démarrer lundi à Stuttgart. Des locaux ont été prévus à cet effet. Du côté des employeurs, l'objectif reste de trouver au plus vite une issue au conflit qui a déjà fait perdre plus de 45 millions d'euros aux entreprises.
Pékin ne goûte que très peu aux critiques formulées par le chef de la diplomatie américaine avant sa tournée en Amérique du Sud, au Mexique, au Pérou, en Colombie et en Jamaïque. Rex Tillerson a invité ces pays à ne pas se jeter dans les bras d'un nouvel empire. Son homologue chinois veut y lire un manque de respect pour ces pays latino-américains et une déclaration qui va à l'encontre de la vérité. Il est 12h37, vous écoutez le journal de France Culture. Deuxième échange de coups de feu en 24 heures dans la bande de Gaza. Ce matin, riposte israélienne à un tir de roquette palestinienne. Des avions ont mené une frappe sur un site du mouvement islamiste Hamas, selon l'armée israélienne. 3 messes en 2 jours, sans aucune issue en vue. 1 an après la mort de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi, des célébrations eurent lieu avant-hier à Kinshasa, non sans heurts. Et aujourd'hui, une messe est donnée en Belgique où se trouve le corps du défunt, dans une morgue, dans l'attente d'une crispation politique et par là même d'une inhumation dans la terre de ses ancêtres. Quelques éléments. À la mort d'Étienne Tshisekedi, un accord avait été conclu avec le président Joseph Kabila. Le texte prévoyait la nomination d'un premier ministre issu des rangs de l'opposition, ce fut chose faite. Mais le pouvoir oublie de se presser de rapatrier le corps d'un opposant dont l'aura politique n'a rien perdu de son rayonnement. Laxine Lotta nous appelle de Bruxelles.
Une messe sera célébrée dans 1 heure en l'honneur d'Étienne Tshisekedi à l'église Notre-Dame de Lourdes de Jette. Ses proches et des militants ont prévu de venir habillés de noir et blanc. La famille n'envisage pas pour le moment l'enterrement du leader à Bruxelles. Cela fait donc 1 an qu'il repose dans un funérarium. Un accord entre les autorités et la famille de l'opposant avait pourtant été trouvé en août dernier pour inhumer le corps en périphérie de Kinshasa, mais il n'a jamais été appliqué. Depuis, c'est le silence de la part du gouvernement congolais, déplore le frère du défunt. Les autorités ont-elles peur de ne pas parvenir à maîtriser la foule quand le corps de Tshisekedi arrivera à Kinshasa, demande-t-il. Considère-t-elle que ce serait la fin du régime? Voilà les questions qu'il faut se poser, ajoute Gérard Moulumba. Une situation de plus en plus pénible pour la famille de l'opposant historique. C'est une attitude inhumaine, déclare le fils aîné d'Étienne Tshisekedi. L'UDPS, le parti fondé par le leader congolais, dénonce la mauvaise volonté du régime de Joseph Kabila, qui considère Tshisekedi mort toujours comme opposant. De son côté, le ministère de l'Intérieur congolais renvoie la faute à la famille politique et biologique du défunt.
Les autorités philippines se demandent si le vaccin contre la dengue commercialisé par le laboratoire français Sanofi n'est pas à l'origine de 3 décès, et ce à la lumière d'un rapport gouvernemental. Manille a déjà suspendu son programme de vaccination. 200 000 cas de dengue sont recensés chaque année dans l'archipel. Bonjour Tiffaine Cicéron.
Bonjour.
Tiffaine, ce que craignaient les autorités vient d'arriver.
Oui, et depuis 2 mois, en réalité, il le craignait, depuis que le laboratoire Sanofi s'est rendu compte qu'il y avait une faille dans son vaccin anti-dengue. Il est pourtant utilisé massivement par les Philippines depuis 2016. L'archipel a investi quand même 58 millions d'euros dans une campagne de vaccination géante. Ce qui explique la colère du gouvernement qui envisage de poursuivre en justice le laboratoire Sanofi. Sanofi qui, pour faire profil bas, va rembourser les doses de vaccins qui n'ont pas encore été utilisées. Pour le moment, 800 000 enfants ont été vaccinés. vaccinés.
Tiffaine, un des arguments du laboratoire pour se défendre, c'est que cette faille dans le vaccin ne concerne que certaines personnes.
Oui, le vaccin fonctionne bien pour les gens qui ont déjà été exposés au moins une fois dans leur vie à la dengue. Mais si vous ne l'avez jamais été, que vous vous faites vacciner et qu'ensuite vous attrapez le virus, alors vous avez plus de risques de contracter la forme sévère de la maladie, ce qui, dans 2% des cas, peut être mortel. Alors l'argument du laboratoire Sanofi, c'est que la plupart des personnes vaccinées ont a priori déjà été en contact avec la maladie. Sanofi parle de 70 à 90% de la population, ce qui laisse quand même un grand risque. On pourrait avoir d'autres cas dans les prochains mois, mais pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. Les cas sévères apparaissent en général entre 3 et 5 ans après la vaccination. Et ça fait seulement 2 mois, on le rappelle, que le gouvernement a interdit ces vaccins.
Merci à vous, Tiffaine Cicéron. Cette semaine, Amazon a inauguré son nouveau siège social futuriste à Seattle. La bulle économique vous y emmène, Marie Vienneau.
La bulle économique, Marie Vienneau.
Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'effet Amazon. Amazon Effect, ce sont les Américains qui en parlent le plus, qui en parlent déjà. Forcément, là-bas, Amazon pèse la moitié du commerce électronique, 53% même. Et le chiffre d'affaires de ce secteur, son poids dans l'économie, a lui augmenté de 40% en 4 ans. Comme il y avait chez nos voisins américains une opulence de centres commerciaux, l'effet Amazon sur les temples de la surconsommation à crédit a été « waouh ». Comme on dit dans le marketing. Et cet effet continue. L'effet Amazon, on peut le voir sur des vidéos qui accompagnent cette musique que vous entendez, Dead Malls, bientôt chez nous, sans doute. L'effet Amazon, c'est aussi un effet sur l'emploi. Il y a 540 000 employés Amazon dans le monde. C'est le deuxième plus gros employeur américain. Les magasins Walmart en emploient 4 fois plus, mais Amazon n'aspire qu'à grossir et le fait. 77% de salariés en plus entre 2016 et 2017. Au final, cependant, Amazon crée-t-il de l'emploi ? Une étude américaine publiée par l'Economy Policy Institute évalue l'impact sur les comtés aux États-Unis qui ont accueilli des entrepôts Amazon. Et le résultat, c'est que 2 ans après avoir ouvert, l'emploi dans la logistique a augmenté de 30%, certes, mais dans le comté, tout emploi confondu, rien n'a bougé. Alors on ne sait pas dire la cause de cette stagnation. Les emplois Amazon ne font-ils que compenser les pertes d'emplois ailleurs ? Amazon est-il responsable ou pas ? Il n'y a en tout cas pas d'effet Amazon notable à la hausse. Mais il y a un autre effet. Dans les négociations pour installer son centre logistique, ici plutôt que là, Amazon négocie des réductions d'impôts avec les autorités locales. Race to the bottom, comme le disait en anglais à Davos la semaine dernière Emmanuel Macron, l'effet Amazon, c'est aussi la course en avant vers toujours moins d'impôts et de recettes publiques. L'Economy Policy Institute préconise d'investir plutôt dans l'éducation et les infrastructures de transport. Amazon investit beaucoup dans la recherche et aussi dernièrement dans son siège social. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, veut que les employés de son siège à Seattle retrouvent un contact avec la nature pendant leurs heures de travail. Alors il inaugure ce jour ce nouveau siège où il n'y a pas de bureau, mais des plantes, 400 espèces et une voix qui émane d'un cercle juché tout en haut de la plus haute sphère. Big Brother s'appelle...
Alexa, open the spheres.
Ok, Jeff.
Le bâtiment a coûté près de 3,5 milliards de dollars. Jeff Bezos n'en demeure pas moins un patron économe dans ses dépenses. Cette semaine, en France, Amazon a voulu négocier à la baisse la prime de nuit de ses salariés français. Ils nous disent tout le temps qu'il n'y a pas d'argent, rapporte un syndicat. Ce qui est vrai, c'est que les plus grandes marges, Amazon ne les fait pas dans le e-commerce, mais dans le cloud, une activité B2B de service web aux entreprises. Et dans ce secteur ô combien stratégique, Amazon est loin, loin devant tous ses concurrents. Effet trust garanti, puisque dans le même temps, la maison mère continue de se diversifier. Cette semaine, elle a annoncé avec 2 autres financiers qu'elle investissait le secteur de la santé et de la protection sociale pour ses salariés dans un premier temps. Le wealth state, l'état social, c'est bien le prochain secteur à disrupter, mais entre-temps, il y en aura eu d'autres. Nous reparlerons de ces effets.
Voilà, Dead Malls. pour vous donner à très grands traits la météo de cet après-midi. Pluie continue du sud-ouest au Hauts-de-France. De la neige jusqu'en plaine sur les Ardennes. Limite plus neige vers 200 à 300 mètres sur le massif central. Ciel variable en bord de Méditerranée avec de bonnes rafales de Mistral et de Tramontane.